puis, ce que je ne savais pas, c'est que mon frère en arrière, lui, défaisait ce que je faisais. Ah, j'étais enragé, là. Je voulais le... Il faisait exprès. C'est pas surprenant que le chien ne m'écoutait pas, hein? Il y a quelque temps aussi, quelqu'un m'a attaqué sur les réseaux sociaux en tant que professionnel de la santé, des attaques cinglantes. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas sur les réseaux. Puis, une des techniciennes est venue, « Docteur Mathieu, telle personne a dit ça sur vous, puis elle répand ça, puis qu'est-ce que vous allez faire? » Je dis rien. Je n'ai pas besoin de réagir à ça. Mais la méchanceté. Qui connaît César, l'homme qui dresse les chiens? On revient aux chiens. Oui, hein? C'est fascinant, cette émission-là, hein? Qu'est-ce qui vous frappe de cet homme-là, César?
C'est que les animaux l'écoutent vraiment.
Oui, les animaux l'écoutent vraiment. Exactement. Oui? C'est pas le chien qui domine, hein? C'est l'être humain. Puis moi, ce qui me frappe, c'est vrai, ces choses-là, mais aussi son amour pour les chiens. Moi, il y a des chiens, des fois, là, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté l'émission, mais il y avait des chiens, des fois, que je leur ai mis une balle dans la tête, ça finit là, là. Tu sais, puis lui, là, il aime les chiens, puis il réussissait à récupérer le chien, là, même le chien méchant, là, tu sais, oui.
La persévérance.
Pourquoi je vous parle de ça? Bien, vous allez découvrir à mesure, écoutez, et vous verrez. Donc, je vous invite maintenant à tourner avec moi dans 1 Samuel, chapitre 22. Et on reprend, c'est le dixième message sur la vie de David. On reprend le récit de la vie de David, 1 Samuel 22, verset 1. On a vu la semaine dernière que David s'était réfugié dans la grotte ou la caverne d'Adoulam. Puis, il avait écrit un psaume par rapport à ce qu'il vivait à ce moment-là. Et on a exploré c'est quoi les émotions et qu'est-ce qu'on fait avec. Je vais revenir là-dessus plus tard un peu parce que c'est tellement important, cette dimension-là de notre personne. Mais on continue. 1 Samuel 22. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adoulam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui. Et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelque 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Plus tard, David se rendit de là à Mitzpeh de Moab et dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » La grand-mère de David était moabite, elle venait du pays de Moab. Puis là, David, ce qu'il fait, c'est qu'il amène ses parents, il les met en sécurité parce qu'il veut les sortir du pays pour pas qu'ils deviennent... attaqué par Saül, le roi qui chassait David. Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. En passant, j'ai vérifié, puis la caverne d'Adoulam, ils l'ont identifié en Israël. C'est un parc national maintenant en Israël. Ça existe encore, c'est incroyable. C'est merveilleux de voir ces choses-là. Un jour, le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans cette forteresse, pars et rentre au pays de Juda. » David s'en alla et s'enfonça dans la forêt de Héret. Verset 6. Saül, qui est toujours roi, apprit qu'on avait repéré David et ses hommes. Il siégea à Gibea sur la colline, à l'ombre d'un tamari, sa lance à la main. Tous ses familiers se tenaient autour de lui. Saül leur dit, « Écoutez bien, homme de Benjamin. » Croyez-vous que le fils d'Isaïe donnera à chacun de vous des champs et des vignes? Est-ce qu'il fera de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Alors pourquoi avez-vous tous comploté contre moi de sorte que personne ne m'a averti que mon fils a conclu un pacte avec le fils d'Isaïe, David, et qu'aucun de vous ne se soucie de moi? Personne ne m'a prévenu que mon fils a dressé mon serviteur contre moi pour me tendre des pièges, comme cela apparaît aujourd'hui. » Doeg, l'Édomite, qui était à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe, David, arriver à Nob chez Ahimelech, le fils d'Ahitoub. Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres et lui a aussi remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Vous vous rappelez de cet épisode-là? Alors le roi a envoyé chercher le prêtre Ahimelech, fils d'Ahitoub, ainsi que tous les prêtres, membres de son groupe familial qui étaient à Nob, tous vinrent se présenter devant lui. « Écoute bien, fils d'Ahitoub, » lui dit Saül, quand celui-ci fut devant lui. « Oui, mon seigneur, j'écoute, » lui répondit-il. « Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi et le fils d'Isaïe ?» lui dit Saül. Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges, comme c'est le cas aujourd'hui. Ahimelech répondit au roi en disant, « Y a-t-il parmi tous les fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David? De plus, c'est le gendre du roi. Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle? N'est-il pas hautement honoré à la cour royale? » Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois? Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi. Que le roi ne mette pas sur mon compte, ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial, une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. Le roi dit, « Ahimelech, tu mourras, toi et ton groupe familial, c'est décidé. » Puis il ordonna à ses gardes qui se tenaient près de lui, « Allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel, parce qu'eux aussi ont soutenu David. » Ils savaient qu'il était en fuite et ils ne m'en ont pas averti. Mais les gardes refusèrent de porter la main sur les prêtres de l'Éternel. Alors le roi ordonna à Doeg, « Vas-y toi, exécute ces prêtres. » Doeg l'Édomite s'avança et ce fut lui qui tua les prêtres. Il mit à mort en ce jour 85 hommes portant le vêtement sacerdotal en lin. Saül fit aussi massacrer par l'épée tous les autres habitants de Nob, la ville des prêtres. Tous y passèrent, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes, brebis. Un fils d'Ahimelech, fils d'Ahitoub, nommé Abiathar, réussit cependant à s'échapper et il s'enfuit auprès de David. Il lui annonça tout ce que Saül avait fait, que Saül avait fait tuer les prêtres de l'Éternel. David s'exclama, « Je m'en étais bien douté l'autre jour que Doeg, l'Édomite, qui était aussi un noble, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'était passé. C'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. Maintenant, reste avec moi et ne crains rien. Nous avons un ennemi commun, toi et moi, qui en veut à notre vie. » Mais auprès de moi, tu seras en sécurité. Prions. Éternel notre Dieu, roi de l'univers, c'est devant toi, Seigneur, que nous nous approchons ce matin. Merci. Merci, Seigneur, du privilège qu'on a ce matin. De se réunir, mais de se réunir en ta présence. De s'arrêter pour écouter ta voix. Dieu des lumières, fais luire sur nous ta face et accorde-nous ta grâce. Donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation pour te connaître. Oui, Seigneur, éclaire notre intelligence, illumine les yeux de notre cœur, qu'on puisse saisir qui tu es et ton Fils Jésus, le Sauveur bien-aimé. On te prie au bon nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Hier soir, je me disais, pourquoi on étudie David? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on cherche à gagner à travers ça? Des connaissances? Des choses intéressantes. Pourquoi étudier la vie de... C'est quoi notre but? C'est quoi notre objectif? Souvent, je vous mets la phrase sommaire de mon message, et c'est bon. Et voilà la phrase. Un cœur qui bat pour Dieu s'appuie sur la bonté de Dieu et le laisse s'occuper du méchant. C'est correct, c'est parfait. Mais Saint-Esprit m'a dit, c'est quoi le but dans tout ça, là? Fait que là, je vous partage, puis je vais vous partager dorénavant, le but, c'est de glorifier Dieu en Christ. Ça, c'est le premier but. Et il ne faut pas l'oublier. Et l'objectif ce matin, c'est de démontrer que Dieu est digne de confiance, car il est redoutable et miséricordieux envers les méchants. Fait que le focus est vraiment sur Dieu. Et il ne faut pas qu'on enlève ce focus-là de sur Dieu. D'accord? Une nouvelle qui frappe. Alors, nous, on a l'avantage d'avoir la parole, puis tout est bien classé, bien structuré. Mais imaginez comment ça a pu se passer, ça. Donc, David, il a quitté Gath, il a pris fuite de Gath pour sa vie. Il se retrouve dans la caverne d'Adoulam. Là, sa famille l'apprend, les frères, les sœurs, la famille élargie, tout plein de monde, ça arrive, ils viennent vers lui. Et puis, il se ramasse, c'est un ramassis de gens. Après ça, il amène ses parents en sécurité dans un autre pays, il revient. Et là, il y a une nouvelle qui frappe, bang, comme un coup de foudre. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive en courant, ce jeune Abiathar, un prêtre, un jeune homme, il arrive en courant, il apporte une nouvelle désastreuse. Ça frappe comme un coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Tout un village massacré, 85 prêtres de l'Éternel, tué, assassiné par la méchanceté d'un homme que David avait croisé le jour où il a pris une mauvaise décision. Vous vous rappelez, là? Il avait pris une mauvaise décision. Il avait pris une décision insensée. C'est quoi une décision insensée? L'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Tu diras jamais ça, genre, je suis convaincu, puis moi non plus. Mais des fois, on agit comme ça. On agit comme il n'y a pas de Dieu. On oublie que Dieu est là. L'anxiété nous frappe, la peur nous frappe, la colère nous frappe. Et là, on est emporté par notre émotion, parce qu'on n'a pas appris à gérer notre émotion. Et là, on est emporté par notre émotion, et on prend une décision insensée. David, il a pris une décision insensée. L'épée de Goliath, est-ce que ça avait pu le délivrer, l'épée de Goliath? Non. Il est allé la chercher. Pourtant, il l'avait consacrée à l'Éternel. Il est allé reprendre ce qu'il avait consacré à l'Éternel. Ça vous arrive-tu de faire ça? De prendre une décision en faveur de Dieu, puis là, tu redécides, ah non, je reprends. Décision insensée, hein? Puis on avait vu les conséquences. Puis là, il arrive une autre conséquence de cette décision-là, parce que le jour où ce que David est entré dans la tente de l'Éternel pour parler avec le prêtre, puis lui demander, t'aurais pas une épée à quelque part ici? Il savait. Mais il y avait cet homme-là, Doeg, qui était retenu devant l'Éternel. Je me suis demandé pourquoi il était retenu. Les raisons dans la parole de Dieu pour quelqu'un d'être retenu devant l'Éternel, c'est peut-être parce qu'il y avait une plaie de la lèpre que le sacrificateur devait réexaminer une semaine plus tard, ou un flux, en tout cas. Bref, c'était pas beau, là. Mais il y avait cet homme-là, qui était le chef des bergers de Saül. Lui, il avait pris note. Il y avait quelque chose de louche, là. Pourquoi? Parce que David, il était tout seul. Puis, il n'y avait pas d'épée. Fait que c'était pas un fou Doeg, là. C'était un homme sage, c'est un homme intelligent, pas sage, intelligent. Il avait noté ça, là. Et là, Abiathar apprend à David que Doeg, il a stoulé David. Pour prendre une bonne expression québécoise, il a raconté à Saül où est-ce que David avait été et qu'est-ce qu'il avait fait. Maintenant, comment David va-t-il réagir à la méchanceté de Doeg? À la méchanceté de Doeg. Premièrement, regardez son humilité. David accepte sa part de responsabilité dans la mort des gens de Nob. Est-ce qu'il était responsable de ces gens-là, de leur mort? Non. Mais il reconnaît qu'il y avait une petite part de responsabilité. Parce que s'il n'avait pas été là ce jour-là, ça ne serait pas arrivé. Hein? Et vous, l'humilité, quand on étudie comment résoudre des conflits, là, selon la Bible, là, un des principes, c'est que même si tu as juste 1% du conflit, de responsabilité dans le conflit, tu es à 100% responsable de ce 1%-là. Qu'est-ce qu'on fait dans les conflits? Ben, c'est lui qui est fautif. Là. Moi, ce que j'ai fait, ça n'a pas d'importance. On balaye ça en dessous du tapis, c'est oublié, c'est lui le fautif. Mais non, c'est presque jamais 100% d'un côté. Ça arrive, là, mais c'est presque jamais à 100%. Jésus dit d'abord, enlève la poutre dans ton œil, tu verras clair pour... Fait que Jésus nous invite à d'abord s'examiner. Et David, il fait ça ici, c'est remarquable. Pas vrai? Remarquable, moi ça me frappe là. C'est moi qui est responsable de la mort. Ben David, exagère pas quand même là, mais il est humble. Il accepte la responsabilité de ce qui s'est passé, sa part en tout cas. Ceci est contrasté avec Saül. Hein? Saül, la même situation, qu'est-ce que Saül fait? Il est caractérisé par l'orgueil. Et la déresponsabilisation. De quoi je veux parler là? C'est quoi je veux dire là? C'est que Saül, dans la situation qu'on vient de lire, comment il se positionne? Non. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il aucune responsabilité? Parce qu'il se positionne en victime. Regardez. Pensez-vous, il dit à ces hommes-là, pensez-vous que le fils de David, il va vous donner des terres, des vignes et tout ça? Parce que quand un roi venait au pouvoir, comme c'est le cas encore aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des cadeaux à ses chums, hein? Il fait des cadeaux. Alors, Saül avait fait ça, hein? Il avait fait ça avec ses hommes. Et pourtant, pourquoi personne ne me dit que David a comploté contre moi? Personne ne m'avertit. Personne ne se soucie de moi. On ne m'a pas prévenu que mon serviteur me tend des pièges, comme c'est le cas aujourd'hui. Il se positionne en victime d'une situation. Et savez-vous que l'être humain, là, on aime ça, se positionner en victime. Pourquoi? Parce que tout est permis à partir du moment que c'est toi la victime. Tout est permis. Ben oui, c'est moi la victime. Donc, j'ai le droit de... Hein? J'ai le droit de me protéger, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Hitler s'est positionné en victime. Saviez-vous ça? Ben oui, absolument. Après la Première Guerre, en fait, la Deuxième Guerre, c'est juste une continuité de la Première. Tous les historiens sont d'accord pour dire ça. La Première Guerre, les Allemands, ils avaient été ramassés par les Anglais puis les Français. Puis les Anglais et les Français, ils ont imposé beaucoup, beaucoup de restrictions économiques et militaires sur l'Allemagne. Et là, Hitler arrive et il se positionne en victime de ces deux pouvoirs-là et en victime des Juifs, des marchands juifs qui contrôlaient le commerce. Nous sommes victimes de ces gens-là. Là. C'est eux qui contrôlent tout. Et donc, tout est permis. Tout est permis. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous allez voir qu'un leader qui est méchant, il se positionne toujours en victime. Ah, ils n'ont pas été gentils avec nous. Regarde ce qu'ils font contre nous. Et toi et moi, on n'est pas exempt de ça. Et Saül, c'est ce qu'il fait ici. Il se positionne en victime de David. Pourtant, David, est-ce qu'il avait fait quelque chose contre Saül? Absolument pas. Ça revient à ce qu'on disait la semaine passée, que nos émotions peuvent être faussées parce que nos perceptions peuvent être faussées. Peuvent être faussées. Alors, c'est clair que Saül, ses perceptions sont faussées, mais étant donné qu'il croit à cette version-là des faits, il se voit comme victime et tout lui est permis, la vengeance, la rétribution, etc., tout est permis. Vous remarquerez aussi que Saül est très zélé pour sa cause à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il anéantit le village de Nob. il voue à destruction tous les habitants, tout au complet. Hein? Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, ou si vous, dans 1 Samuel 15, là, Dieu avait donné un ordre à Saül d'aller détruire un peuple qui était ennemi de Dieu, de les éliminer complètement. Et puis Saül, à ce moment-là, est-ce qu'il avait obéi? Non, il n'avait pas obéi. Il s'était permis d'exécuter à moitié la volonté de Dieu, mais là, il exécute parfaitement sa propre volonté. Hein, ça peut nous ressembler des fois. Hein? Dieu nous dit quelque chose, peut-être demain. Ah, ça me tente plus ou moins. Mais moi, j'ai goût de faire ça. Là, on se lance avec toute notre énergie, toutes nos ressources, toutes nos capacités. Ça fait réfléchir. J'espère que ça devrait nous faire réfléchir, en tout cas. Donc, qu'est-ce que David fait aussi? Il accepte sa part, il est humble, il est responsable, mais c'est ça qui fait de David un homme selon le cœur de Dieu. C'est quoi qu'il fait avec sa situation? Il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu et il s'exprime en chant à son berger. Donc, tournez avec moi dans le psaume 52. Psaume 52. Ce que je trouve extraordinaire, puis je vous répète, c'est qu'à chaque fois, c'est que dans ce que David vit, on a le privilège d'avoir une fenêtre pour voir ce qui se passe dans son cœur. Et ici, c'est la même chose. Regardez, psaume 52. Au chef de cœur, une méditation de David. Pardon, je lis dans la version sommaire, qu'il composa lorsque Doeg, l'Édomite, vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Ahimelech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits, c'est un rasoir bien affilé, elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Pause. Donc ici, la première section, David décrit. Il décrit le comportement du méchant. Verset 6. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. Il reprend. Qu'est-ce que le méchant fait? Maintenant, au verset 7, « C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente, il t'en chassera, il arrachera tes racines du pays des vivants. » Pause. Fait qu'ici, David décrit la réaction de Dieu contre le méchant. Verset 8, « Alors les justes le verront et seront saisis de respect. » Ils se riront de toi. Le voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. » Donc, ça serait quoi la réaction normale face à la méchanceté de quelqu'un à ton égard? Émotion. Colère. Oui. C'est la réaction normale à toute injustice. L'injustice produit la colère. Ça, c'est la réaction normale. Et pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. L'injustice met Dieu en colère. OK? Sauf que l'être humain, il y a deux problèmes. Souvent, il perçoit une situation comme injuste qui n'est pas injuste du tout. Deuxièmement, lorsqu'il agit en colère, il n'agit pas avec les bons motifs et il déborde. et il prend la justice en main. OK? Alors que Dieu dit, la justice est à moi. Mais la réaction de colère face à l'injustice, elle est bonne. Et la semaine passée, on a dit, quand tu vis une émotion, tu devrais d'abord t'arrêter et dire, quelle émotion que je vis et qu'est-ce qui provoque cette émotion? Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une partie vraie, une partie faux? C'est ma perception. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et David nous enseigne de faire quoi avec ça? S'il vous plaît? D'aller à Dieu. D'aller à l'Éternel. De répandre ton cœur à l'Éternel. Et c'est ce qu'il fait ici. Je veux dire, pourquoi David est un homme selon Dieu, là? Selon le cœur de Dieu, c'est que David aurait pu se mettre en colère, là. Puis dire, OK, les gars, là, on va le traquer, ce Doeg-là, là. Vous allez voir. Prendre les choses en main. Non, il se tourne vers Dieu et il exprime en chant qu'est-ce qu'il vit. Wow! On a quelque chose à apprendre ici, là, mes amis. On a quelque chose à apprendre, pas juste apprendre intellectuellement, mais apprendre à mettre en pratique. Lorsque tu vis une émotion, qu'est-ce que tu fais avec? Et lorsque tu vis l'injustice, lorsque tu vis la méchanceté, qu'est-ce que tu fais avec? Tu réagis en colère ou tu portes ça avec ton cœur à Dieu? Donc, David décrit ici le comportement du méchant. Quelle est la définition du méchant? Je me suis posé la question. Nous, on a une définition peut-être dans notre tête. Ce serait quoi pour toi quelqu'un de méchant? OK? Je ne vous demande pas de répondre, mais juste dans votre tête, là. OK? C'est quoi quelqu'un de méchant? OK. Vous l'avez, votre réponse? Bon, maintenant, qu'est-ce que David nous dit sur la méchanceté ici? Qu'est-ce qui le caractérise? Il dit, ta langue trame des méfaits, au verset 4. C'est un rasoir bien affilé, il est habile pour tromper. Un méchant, c'est quelqu'un qui emploie sa langue, ses paroles, pour blesser délibérément. OK? Délibérément. Tu n'as jamais fait ça, hein? Moi non plus, hein? OK. Qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 5. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. La méchanceté se caractérise par un choix délibéré du mal versus le bien. C'est que tu sais ce qui est bien, mais tu fais le contraire. Hein? Tu préfères, c'est ça qu'il dit, hein? Tu donnais ta préférence au mal. Tu choisis délibérément. Verset 6, tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. Un autre élément, regardez au verset 3. Toi qui es fort, qu'as-tu de te vanter de ta méchanceté? Un méchant, c'est quelqu'un qui s'appuie sur sa capacité, ses avoirs, ses forces à lui et qui va les employer, ces choses-là, pour faire arriver ses projets à lui, puis tassez-vous de là, peu importe, ça ne me dérange pas, qui va être blessé en route, là. Il s'appuie sur ses propres forces, ses ressources, sa puissance, etc. Une question pour vous. Est-ce que c'est possible? Est-ce possible pour l'être humain? Est-ce que l'être humain a la capacité d'être bon envers certaines personnes et très méchant envers d'autres? Oui. Oh oui! Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Même les chefs de la pègre, là, ils peuvent être très gentils avec leur famille, avec leurs proches, leurs femmes, tout ça. Très gentils et extrêmement méchants avec leurs ennemis. Je ne sais pas si vous avez écouté le film, à un moment donné, c'est un fait vécu, il chassait Adolf Eichmann, les Juifs, là, ils l'ont chassé en Argentine, puis après la guerre, puis ils l'ont trouvé dans les années 70, je pense, les années 70, les services secrets israéliens, là. Puis ils étaient époustouflés, les agents, de voir la gentillesse de cet homme-là. Lui qui avait été à la tête des camps de concentration, là, il était gentil avec sa famille. À tel point que dans le film, il y a un moment donné, un des agents qui il était bouleversé. Là. Il ne savait pas s'il allait continuer ou pas. Là. Bouleversé. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Pourtant, il avait surveillé la destruction de 6 millions de Juifs. Dans les conditions abominables, dans la torture, dans la méchanceté incroyable, inimaginable. David prend conscience de la situation. Il ne cherche pas à diminuer la méchanceté de Doeg, mais il prend et il s'amène avec ça à son Dieu. Il se tourne vers Dieu. Et il s'exprime à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe, comme on a vu la semaine passée, qu'est-ce qui se passe quand tu prends ta situation, quand tu prends ce que tu vis et tu l'amènes à Dieu? Tu gagnes une nouvelle perspective. Tu gagnes une nouvelle perspective. Ça, on l'a vu, contraste. Gagne une nouvelle perspective, la perspective de Dieu. Donc, premièrement, comme j'ai dit, souvent nos perceptions sont faussées. Tu penses que telle personne a été méchante envers toi, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout. Pas une minute. Mais tu l'as vécu comme ça. Deuxièmement, c'est que tu as la perspective de Dieu sur ta situation. Et qu'est-ce que ça change ici, la perspective de Dieu? Qu'est-ce que David... En se tournant vers Dieu, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise que Dieu s'occupera bien du méchant. Dieu va s'en charger. Dieu s'en charge. Donc, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Dieu va s'occuper du méchant. Dieu s'en charge. Dieu est redoutable. C'est ça la perspective. Quand tu viens en présence de Dieu puis tu réalises qui est Dieu, là, que nous, les êtres humains, les plus puissants de toute la terre, les plus riches, les plus forts, sont comme des petites souris devant le trône d'un immense Dieu incroyable. Oh! Mon ami, quand tu vas te présenter devant Dieu, là, un jour, là, ta réaction, là, je peux te le dire, ça va être ça. Et tu vas tomber face contre terre. Il n'y a personne qui peut tenir en présence de Dieu. Personne. Personne. Donc, Dieu s'occupe du méchant. C'est ce que David apprend en venant en présence de Dieu. Dieu va s'occuper du méchant. Tu n'as pas besoin de t'en occuper et tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. C'est quoi préoccuper? Une préoccupation, c'est une pensée qui est toujours à l'avant. Toujours en avant. Hein? C'est ça. Oui, exactement. C'est ça le mot, veut dire en avant. Donc, préoccupé par un examen médical que tu dois passer dans une semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Tu y penses constamment. Tu penses à d'autres choses, hop, ça revient. Hein? Cette pensée-là revient. Okay? Quand tu es face à quelqu'un qui fait de la méchanceté, le danger, c'est que tu deviennes préoccupé par le méchant. Jésus dit quoi? Jésus dit, dans la version Sumer, faites du royaume des cieux votre préoccupation première. Oh! Préoccupation, Matthieu 4:4, merci mon frère, bien-aimé. Matthieu 4:4, faites du royaume des cieux votre préoccupation première. Tu penses à d'autres choses, ça revient, royaume de Dieu. Pense à d'autres choses, ça revient, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Et sais-tu quoi? Quand tu te préoccupes du méchant, tu ne peux pas te préoccuper du royaume de Dieu. Impossible. Il y a des chrétiens, à ce moment-ci, là, partout dans le monde, sont préoccupés par les méchants. Mon frère, ma sœur, j'espère que ce n'est pas ton cas. Tombe pas là-dedans, c'est un piège. Peu importe le leader, puis on n'entre pas des discussions dans l'Église. Là. OK? Je vous le dis tout de suite, là. On n'entre pas dans les discussions politiques dans l'Église. Peu importe le leader, c'est un piège de tomber dans la préoccupation du méchant. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je m'en occupe. Je m'en occupe. Donc, si tu t'en préoccupes, il y a deux choses. Premièrement, tu ne te centres pas sur Dieu, tu es centré sur toi-même. Et deuxièmement, tu n'es pas en train de te préoccuper du royaume de Dieu. OK? Oui. Oui. Et tu vas tomber dans une fausse mission. Le danger, c'est que tu tombes dans une fausse mission. Ah, il faut dévoiler ce genre. Ah, il faut combattre ça. Il faut... Ah, non, non. On n'est pas appelé à ça. Notre mission, c'est quoi? Faire des disciples. Donc, David apprend... En présence de Dieu, que Dieu, lui, ce n'est pas un problème pour lui. Il s'occupera bien du méchant. Il est redoutable. Et, deuxième chose, Dieu prend soin des justes. Dieu s'occupe des justes. Il va protéger. Il va en prendre soin. Verset 10, « Moi, je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte, je me confie, je m'appuie sur l'amour de Dieu à toujours et à jamais. » Donc, il sort de la présence de Dieu en paix et en joie, face à une situation horrible, horrible, pas vrai? Maintenant, ça c'est excellent. Tout ça c'est excellent. Mais il y a encore quelque chose de plus beau encore. C'est qu'il y a une autre perspective, la nouvelle perspective de la croix. Parce que depuis le temps de David, il y a eu Jésus et il y a eu la croix. Et qu'est-ce que ça change, ça? Bien, ça change tout. Ça change tout, vous allez voir. Première des choses, c'est qu'on réalise que nous sommes tous méchants. Oh! Attends un peu, là, dans le psaume, là, c'était clair que c'était l'autre, le méchant, puis moi, c'est le juste, le fidèle. Hein? Tu t'identifies, hein, comme moi, à David, comme étant le juste et le fidèle. Bon, on sait bien que David, il a fait des choses méchantes aussi, là, plus tard, on va le voir. La Bible nous dit que nous sommes tous méchants aux yeux de Dieu. Regardez dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 9. Romains 3, 9. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs. Sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également, quoi? Injustes. Comment? Sous le pouvoir du péché. Coupables. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous égarés, ils sont tous corrompus. Il n'y a pas un qui fasse le bien, non pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions, leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang, la destruction et le malheur jalonnent leur parcours, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, à leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens ou il n'y a pas de crainte devant leurs yeux. Oh! C'est toute qu'une évaluation des êtres humains, hein? C'est pas populaire, là. C'est pas politiquement correct, là, de dire ça. Mais c'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas un juste, il n'y en a pas un seul. C'est quoi la définition d'un méchant et c'est quoi la définition d'un juste? Bien, la définition qu'on nous, on peut avoir est différente de celle que Dieu a. Pour Dieu, une personne juste, je n'ai pas d'image ici, mais vous allez comprendre, c'est une feuille blanche. Si tu demandes une feuille blanche, tu dis à Brian, j'aurais besoin d'une feuille blanche pour écrire une belle lettre, puis je t'amène une feuille, elle est blanche, mais il y a une grosse tache d'encre au centre. Mais là, tu dis, c'est pas une page blanche. Ben oui, elle est blanche, regarde, il y a juste une tache blanche, une tache noire là. Elle n'est pas blanche. Ben oui! Bon, c'est ce qu'on fait, les êtres humains. Elle dit, moi, je suis une bonne personne. Je suis une personne juste. Mais aux yeux de Dieu, Dieu regarde et dit, non. Et Dieu, là, il dit, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui cherche Dieu, qui est capable de comprendre. Tous sont égarés, tous sont corrompus. Sans l'intervention de Dieu, là, sans que Dieu intervienne par l'Évangile et par l'Esprit, il n'y a aucun être humain qui se tournerait naturellement vers Dieu. Ça prend l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a tourné le dos à nos premiers parents, on a hérité de cette nature-là égocentrique. Nous sommes nous au centre et on ne se trouve pas pire à part de ça. Mais Dieu dit, vous êtes tous égarés. Là, vous lisez ça, puis vous dites, ben oui, mais Brian, moi, j'ai jamais fait verser le sang. Écoute, il lève un venin sous la langue, un venin, tout ça. Non, c'est pas à dire que toi, personnellement, tu es toutes ces choses-là, que le péché t'a complètement corrompu jusqu'aux os. Non, mais il n'y a pas une partie de notre être qui n'est pas touchée. Par le péché. Même que lorsqu'on produit des choses bonnes, des fois les motifs, si Dieu regarderait les motifs de notre cœur, on dirait, ouais, t'as fait ça, hein, t'as été au déjeuner hier, hein, c'est bon ça? Pourquoi t'as fait ça? On dirait que t'as fait ça pour bien paraître. Mais il n'y a personne qui sait ça, là. Dieu sait. Dieu lui sait. Il sait. Nous sommes tous méchants, mais savez-vous quoi? Nous sommes tous précieux à ses yeux. Wow! Et c'est pour ça que je parlais de César au début, là. César, ça me frappe. Son amour pour les chiens, même les chiens les plus détestables, là, il mettrait une balle en tête. Ça finit là. Non! Il aime le chien. Il veut son bien, puis il veut l'amener à changer. Et c'est une petite image de Dieu. Petite image. Dieu, là, pense à l'être le plus méchant sur la terre, là. Dieu aime cette personne-là. Tu dis impossible. Non? Non? Impossible pour moi de l'aimer, peut-être. Mais c'est Dieu l'aime. Il n'aime pas sa méchanceté. Il déteste sa méchanceté. Mais nous sommes précieux à ses yeux. Ézéchiel 18, 23 nous dit, « Est-ce que je me plais à la mort du méchant? » Dieu dit, « Non, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Je désire plutôt que le méchant se tourne de sa méchanceté. » Il veut. Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus à la croix, c'est pour ça que ça change tout. La croix de Jésus-Christ change tout. parce que Jésus, à la croix, accepte de subir le sort du méchant. OK? Le sort du méchant. Doeg, là. Doeg, le méchant, là. Zigouiller les prêtres de l'Éternel, puis raser la ville, des enfants, des femmes. Lui, là, Jésus a pris sur lui le sort d'un homme comme lui. Pas nécessairement lui, parce que je ne sais pas si s'est repenti, s'il a cru, je ne sais pas, aucune idée. Mais Jésus a pris sur lui le sort du méchant. La Bible nous dit, lui qui ne connaissait pas le péché, il est devenu péché pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. La malédiction, le jugement de Dieu qui était contre le méchant, contre moi, contre toi, est tombé sur Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Parce que tu es précieux à ses yeux. Et c'est ça la perspective de l'Évangile. Ésaïe 53, cette perspective-là était prédite par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 53. Je vais juste lire quelques versets. Versets 6 à 8, Ésaïe 53, verset 6. Nous tous, nous étions errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie. Il me semble qu'on a vu ça, cette expression-là. Oui, tantôt dans le psaume 52, David dit, Dieu va arracher ses racines les vivants, de la terre des vivants. Ici, la même expression est appliquée à qui? Jésus. Jésus. Arraché à la vie. Ouf! Dieu, c'est comme il prend par le collet, puis toi, là, tu ne mérites plus de vivre. Tiens. Ouf! Dieu a fait ça avec Jésus. Arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple. À cause de tes péchés, à cause des miens. Fait qu'on réalise, dans la perspective de la croix, que nous sommes tous méchants, que nous méritons tous le jugement de Dieu, mais que nous sommes tous précieux à ses yeux. Et la preuve, c'est que Jésus a accepté de subir ce sort-là à ta place. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu vas t'appuyer sur cette bonté? Parce que cette bonté-là, elle t'est offerte. David dit dans le psaume 52, « Je m'appuie sur la bonté de l'Éternel, sur sa bonté. » Dans Romains 3, verset 21, il est écrit, « Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, c'est-à-dire fais ci, fais pas ça. Tu peux pas être juste comme ça. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en qui? En Jésus-Christ. Il déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Quand je parle aux gens, là, souvent je leur dis, pourquoi vous iriez au ciel? Ah ben, j'ai fait mon possible. Je suis une bonne personne, ça. La pensée des gens, là, c'est qu'on part de l'idée qu'on est une bonne personne à la base. Désolé, mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que oui, tu peux avoir une certaine bonté, mais la Bible dit que nous sommes tous injustes. Nous sommes tous corrompus. Ça paraît peut-être pas, là, mais Dieu voit. Et dans la notion de notre société, tu es une bonne personne, puis si tu fais assez de bons choix, pas pire, là, ben Dieu il va t'accepter, car Dieu est conscient, tu sais, Dieu est quand même raisonnable. Ça, c'est pas l'Évangile, ça, du tout. C'est un mensonge du diable. La vérité, c'est que tu ne peux pas faire rien qui puisse enlever les tâches qui sont sur toi à cause de tes actes et tes pensées injustes. La seule chose qui peut faire ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui a subi le jugement pour toi à la croix. Et là, si tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ par la foi, Dieu te déclare juste. Parce que le jugement est passé. Tu ne peux pas être jugé deux fois pour le même crime, pas vrai? Oui, c'est vrai. Jésus, si tu acceptes que Jésus subisse ton jugement, Dieu dit, « Parfait, le jugement est payé. Maintenant, je te déclare juste. » C'est ça, la vraie évangile. Fait que la question va être ceci. Vas-tu continuer à t'appuyer sur ta supposée bonté? Ou tu vas tourner vers Dieu? Puis t'appuyer sur sa bonté à lui. On va prendre un temps pour le repas du Seigneur. J'invite William à venir, puis je reviens après pour quelques paroles. Ça va, William? T'avais-tu besoin de l'écran? Non. Dieu en disant, « Mais moi, je suis un olivier verdoyant dans la maison de l'Éternel et j'y demeurerai toujours. » Et ça touche à notre identité, n'est-ce pas? Donc, quand on vient en présence de Dieu, on redécouvre notre vraie identité. Et ça, c'est une autre perspective qui change tout. Parce que comme on a vu antérieurement, ça fonctionne comme ça. Qui est Dieu détermine ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait détermine qui on est. Et qui on est détermine ce qu'on fait. Mais quand cette communion-là est brisée à cause du péché, bien là, on est assujetti, on est à la merci de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de nos projets, de nos plans, de nos péchés, des péchés des autres. Et ça vient bouleverser qui je suis. Ça attaque qui je suis. Mais lorsque je viens en présence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, alors je découvre qui est Dieu, je découvre ce qu'il a fait pour moi à la croix, je découvre qui je suis, un enfant bien-aimé, comme on a entendu, un olivier verdoyant qui produit du fruit, et ça me libère de tout ce qui se passe ici. Ça me libère d'agir en fonction de mon identité. Tout est identitaire. Donc, as-tu vécu ou vis-tu de la méchanceté? Bien, ce matin, Dieu t'appelle à faire comme David, tourne-toi vers lui, cherche sa face, cherche sa perspective, cherche sa grâce, cherche ton identité en lui, et cela transformera ta vie parce que Dieu est redoutable et il est miséricordieux. Et il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Amen. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.